La cité d'émeraude. Chapitre 1. L'autobus automatique s'arrêta. Une femme noire aux cheveux gris et un octopode en descendirent. Dès qu'ils se dirigèrent vers une des cinq rues qui partaient du rond-point, leur moyen de transport s'éteignit et repartit. Une luciole solitaire précédait Nicole et le docteur bleu qui poursuivaient leur conversation dans la pénombre. L'humaine articulait soigneusement chaque mot pour permettre à son ami de lire plus facilement sur ses lèvres. L'octopode n'employait quant à lui que des phrases simples composées de mots dont elle connaissait la signification. Ils atteignirent la première des quatre habitations de plein pied au mur blanc cassé situé à l'extrémité du cul-de-sac. Le docteur bleu leva un tentacule pour lui serrer la main. « Bonne nuit », dit Nicole avec un sourire las. « La journée a été chargée. Merci pour tout. » Le médecin rentra chez lui et Nicole alla vers la fontaine pour se désaltérer. L'eau éclaboussa son visage et retomba dans le bassin où elle provoqua un regain d'activité. Malgré la faible clarté, elle vit de petites créatures s'égayer de toutes parts. « Il y a partout des nettoyeurs ici. L'eau qui a été en contact avec mon visage sera purifiée dans quelques secondes. » La luciole repartit sitôt que Nicole eut franchi le seuil de la plus grande des maisons. Dans le vestibule, elle tapota la paroi et un insecte moins gros et lumineux que le précédent vint à sa rencontre. Elle fit un saut aux toilettes, puis s'arrêta devant la chambre de Benji, qu'elle regarda dormir pendant un court instant. Richard ronflait. Elle retira ses chaussures et ressortit. Arrivée dans le cabinet de travail, elle tapa deux fois sur la cloison et la clarté de la luciole s'amplifia. Les lieux étaient encombrés par les composants électroniques que les octopodes avaient apportés à son mari au fil des mois. Elle rit en se frayant un chemin dans ce bric-à-brac. Il faut toujours qu'il ait un nouveau projet. Mais au moins son interprète nous sera-t-il utile? Elle s'assit au bureau, ouvrit un tiroir, prit son ordinateur portable et cliqua sur l'icône de son journal. 221e jour. Je suis rentré très tard et tout s'était endormi. J'ai été tenté de m'allonger à côté de Richard, mais cette journée a été si fertile en événements que je veux tout consigner par écrit avant que mes pensées ne se brouillent. J'ai déjeuné en compagnie de notre clan environ une heure avant l'aube. Naï a parlé des devoirs qu'elle donnerait aux enfants. Éponine nous a signalé que ses brûlures d'estomac et ses nausées matinales l'incommodaient moins. Richard s'est plaint que les sorciers de la biologie, nos hôtes évidemment, étaient de piètres électriciens. J'ai essayé de me mêler à la conversation, mais l'angoisse que m'inspirait la réunion prévue avec les médecins octopodes accaparait toutes mes pensées. J'avais la gorge serrée à mon arrivée dans la salle de conférence de la pyramide. Le docteur Bleu et ses collègues ont immédiatement résumé ce que les analyses leur avaient permis d'apprendre. Le jargon médical est hermétique, même dans une langue familière, et j'ai eu de sérieuses difficultés à suivre leurs explications. J'ai souvent dû leur demander de préciser leurs pensées. Mais l'essentiel n'était que trop évident. Oui, ils avaient déterminé en quoi le génome de Benji était différent des autres. Oui. Ils avaient identifié les gènes du chromosome 14, responsables du syndrome de Whittingham. Non, ils ne pouvaient pas tenter un transplant génétique. Une telle intervention eût été trop complexe. Il manquait d'expérience avec les humains, les risques étaient trop grands. Et j'ai pleuré. Qu'avais-je espéré? Que la magie qui avait délivré Éponine de la malédiction du RV41 permettrait de corriger une tare héréditaire. Je connaissais pourtant la différence entre les deux. Oui, j'ai versé des larmes devant des extraterrestres, pour qu'elles soient taries quand je reviendrai auprès de mes semblables. Naï et Éponine ont compris dès qu'elles m'ont vu. Naï a beaucoup d'affection pour Benji et vante constamment sa détermination à surmonter ses handicaps. Il consacre des heures à étudier ses leçons pour appréhender un concept qu'un enfant de 9 ans normal assimilerait en 20 minutes. Naï est son professeur, Éponine est son amie. C'est sans doute elle qui est le plus déçue. Les octopodes l'ont sauvée et elle était convaincue qu'il résoudrait également le problème de Benji. C'est impossible. Et elle a tant pleuré que je me suis inquiété pour l'enfant. Elle a tapoté son ventre et m'a dit de ne pas avoir peur. Puis elle a ri et déclaré que sa réaction devait être due à un surcroît d'activité de son système hormonal. Bien que bouleversés, les hommes n'ont pas extériorisé leurs émotions. Patrick est sorti de la pièce sans dire un mot. Max a grommelé un chapelet de jurons et Richard s'est contenté de grimacer et de secouer la tête. Nous avions décidé de ne pas révéler à Benji le but des examens auxquels le soumettaient les octopodes. S'est-il douté de quelque chose? C'est possible. Ce matin, lorsque je lui ai dit que les médecins avaient conclu qu'il était en bonne santé, rien dans son expression ne m'a permis de trancher. Je soupçonne Richard et le docteur Bleu de s'être concertés pour ne pas me laisser le loisir de ruminer de sombres pensées. Je n'étais dans ma chambre que depuis un quart d'heure quand on a frappé à la porte. Richard venait m'annoncer que le docteur Bleu et deux autres chercheurs m'attendaient dans la salle de conférence. Avais-je oublié le cours d'anatomie préparé à mon intention? C'était si passionnant que j'ai fini par reléguer ma déception au fond de mon esprit. Les collègues du docteur Bleu m'ont montré des dessins des principaux organes de leur appareil digestif. Ils m'ont expliqué, dans leur langage haut en couleur, les processus subis par les aliments qu'ils ingèrent. La caractéristique la plus singulière est la présence d'une grande poche à chaque extrémité de leur intestin. Ce qu'ils avalent est stocké dans le sac supérieur et peut y rester 30 jours. C'est le corps qui détermine en fonction de ses dépenses énergétiques la quantité de nourriture qu'il convient de traiter chimiquement pour reconstituer son potentiel. La poche inférieure reçoit ce qui n'a pu être converti. Dans le sac à déchets de tout octopode vit un éliminateur, c'est ma meilleure traduction des couleurs représentant un petit mille-pattes, qui naît d'un œuf déposé là par son prédécesseur. Cette créature omnivore absorbe 99% du contenu de la poche pendant le mois nécessaire à son développement. Devenue adulte, elle pond deux œufs, dont un seul est fécondé, puis elle meurt. Les octopodes s'empiffrent littéralement lorsqu'ils mangent, ce qu'ils font très rarement. Nous avons eu une longue conversation sur leurs habitudes alimentaires. J'ai été surprise d'apprendre qu'ils meurent instantanément si leur poche d'entrée est vide. En outre, ils doivent apprendre aux bébés à évaluer l'importance de leurs réserves. Ils ignorent ce qu'est la faim. En voyant mon expression, le docteur Bleu a ri, une palette de couleurs. Puis il s'est hâté de m'affirmer qu'il était très rare qu'un de ses congénères meure d'inanition. Après une sieste de 3 heures, les journées sont ici si longues que seul Richard peut rester debout, le docteur Bleu m'a informé qu'en raison de l'intérêt que je portais à leur appareil digestif, ils avaient décidé de me faire découvrir 2 autres caractéristiques de leur métabolisme. J'ai embarqué avec eux dans un véhicule qui a traversé la cité d'Émeraude. Les créatures fascinantes présentes à l'extérieur de notre secteur accaparaient mon attention, mais je me souviens de l'avoir vu préciser que son espèce était polymorphe et que les membres de la colonie installée dans Rama avaient 6 formes différentes. Un des paramètres qui varie est la taille, a-t-il ajouté. Mais cette précision n'a pas atténué ma surprise lorsque nous sommes descendus du véhicule devant un vaste hangar abritant 4 énormes octopodes, 2 à chaque extrémité. Ils avaient une tête d'au moins 7 mètres de diamètre, un corps comparable à un dirigeable et des tentacules démesurés gris ardoise. Le docteur Bleu m'a expliqué que ces morphes avaient pour unique fonction de servir de réserve de nourriture à la colonie. Chaque repu emmagasine l'équivalent de plusieurs centaines de sacs d'adultes ordinaires. Étant donné que nous avons une autonomie de 30 jours, 45 en nous rationnant, vous vous ferez une idée de la contenance d'une douzaine de ces êtres. Alors que je regardais, 5 octopodes se sont approchés d'un des géants et lui ont dit quelque chose. Peu après, le Léviathan se penchait et baissait la tête. Il a ensuite régurgité une épaisse bouillie par la bouche située sous sa lentille laiteuse. Les 5 octos de taille normale se sont regroupés autour du monticule pour s'en nourrir. Vous remarquerez qu'ils sont incapables de s'exprimer et de se déplacer, a dit le docteur Bleu. Leur génome a été conçu pour qu'ils puissent stocker des victuailles, les conserver et les mettre à la disposition de ceux qui le demandent. Je pensais toujours au repu quand nous sommes arrivés dans une école. J'ai fait remarquer que l'immense installation était presque déserte et un médecin a déclaré que la colonie n'avait pas été reconstituée depuis longtemps, si j'ai correctement interprété les couleurs. Je n'ai toutefois obtenu aucune explication sur le sens de cette remarque. Dans une salle se trouvaient 2 adultes et une 20aine de jeunes, environ 2 fois moins gros que leur maître. Je n'ai pu suivre les propos des élèves et de leurs professeurs car ils utilisaient leur alphabet complet, dont je ne puis voir les ultraviolets et les infrarouges, et la largeur des bandes de couleurs des enfants manquait de régularité. Le docteur Bleu m'a expliqué que nous assistions à un cours d'évaluation. Les petits octopodes apprenaient à estimer l'importance des réserves de nourriture que contenait leur poche supérieure. Quand il m'a précisé que c'était une des matières les plus importantes enseignées aux juvéniles, j'ai avoué que je saisissais mal leurs propos, et il m'a répondu qu'il ne savait pas encore s'exprimer correctement. De retour dans la salle de conférence, ils m'ont posé quelques questions sur l'appareil digestif des humains. Elles étaient ardues. Ils s'intéressaient par exemple au cycle de Krebs. Et j'ai une fois de plus été frappé par le fait qu'ils savent bien plus de choses sur nous que nous n'en savons sur eux. Quelle journée! Elle a commencé par une amère déception, puis j'ai obtenu la preuve de l'élasticité du psychisme humain lorsqu'il m'a été possible d'apprendre de nouvelles choses sur nos hôtes. L'homme est un être émotif dont les facultés d'adaptation sont rapides. La nuit dernière, je parlais avec Éponine de nos conditions de vie singulières dans la cité d'Émeraude et de l'effet qu'elles auraient sur son enfant quand elle a secoué la tête et souri.
Vous savez ce qui m'étonne le plus? Nous sommes un noyau d'humains exilés dans un royaume extraterrestre à l'intérieur d'un vaisseau démesuré qui se rue vers une destination inconnue. Et nos journées sont ponctuées par de la joie, de la tristesse et des déceptions comme si nous étions toujours sur la Terre.
On pourrait vraiment croire que c'est une gaufre, déclara Max. Tant qu'on n'y a pas goûté.
Ajoute du sirop,
lui conseilla Éponine en riant.
Et passe-moi le plat.
Il lui tendit l'assiette.
Bon sang, tu dévores tout ce qui est à ta portée. Je me demande si ton appareil digestif ne comporte pas un de ces sacs dont a parlé Nicole.
Ce serait pratique, commenta Richard. Après avoir fait le plein, nous n'aurions plus à interrompre notre travail parce que notre estomac crie famine.
C'est drôlement bon,
dit Kepler à l'autre bout de la table.
Je parie que même Hercule adorerait ça.
À propos d'Hercule,
fit Max à voix basse.
À quoi joue cet octopode? Il se pointe tous les matins, toujours à la même heure, et il reste planté là. Sinaï fait l'école aux enfants, il va s'asseoir au fond de la pièce.
Il s'amuse avec nous, oncle Max,
cria Galilée.
Il est formidable, il fait tout ce que nous voulons. Il m'a même laissé utiliser sa tête comme punching ball.
Selon Archie, intervint Nicole, Hercule est un observateur officiel. Nos hôtes s'intéressent à tout ce qui nous concerne.
Le problème, c'est quand vous, Ali et Richard, êtes absents, personne ne comprend ce qu'il dit. Nye arrive à déchiffrer quelques phrases, mais c'est insuffisant. Hier, pendant que tous faisaient la sieste, Hercule m'a suivi aux chiottes. Je sais pas si ça vous aurait gêné, mais mes sphincters étaient paralysés.
Pourquoi tu lui as pas demandé de s'éloigner ? S'enquit Patrick en riant.
Je l'ai fait, mais il est resté planté là, en répétant une suite de couleurs incompréhensibles.
Te souviens-tu desquelles ?
Voulut savoir Ali.
Non, j'ai oublié. Et c'est trop tard, quoi qu'il en soit.
Les jumeaux éclatèrent de rire. Benji, qui n'avait pas dit un mot pendant le repas, les pria de l'excuser.
« Ça va, mon chéri ?»
lui demanda sa mère. L'homme-enfant hocha la tête et se dirigea vers sa chambre.
« C'est-il quelque chose ?»
s'enquit posément Nye. Nicole se tourna vers sa petite fille.
« As-tu fini ton petit déjeuner, Nikki ?»«
Oui, mamie, »
répondit la fillette. Elle se leva, bientôt imitée par Kepler et Galilée.
« Je crois que Benji a des soupçons, »
déclara Max dès qu'ils furent entre adultes.
« C'est possible, » reconnut Nicole. « Mais hier, quand je lui ai parlé, je n'ai rien remarqué qui... »
Elle s'interrompit pour s'adresser à Éponine.
« Au fait, comment vous sentez-vous ce matin ?»«
En pleine forme. Le bébé débordait d'énergie à mon réveil. » Il m'a donné des coups de pied pendant une heure. J'ai dit à Max de toucher mon ventre, mais il n'a pas osé.
Pourquoi en parles-tu au masculin? Tu sais que j'aimerais avoir une petite fille qui te ressemble.
Tu mens, Max. Tu tentes de t'en convaincre pour t'éviter une déception. Tu voudrais un garçon. En outre, le mot bébé est masculin, quel que soit son sexe.
Ce qui me fait penser que j'ai une question à poser à nos experts en octopodes,
dit Max. Après avoir bu une gorgée d'ersatz de café.
Quelqu'un ici sait-il quel est le sexe de nos amis? S'ils en ont un, bien sûr. Je n'ai rien vu qui me fournisse un indice.
Ali secoua la tête.
Je ne sais pas, Max. Selon Archie, Jamie n'est ni son enfant, ni celui du docteur Bleu. Pas dans le sens biologique du terme, en tout cas.
Ils ont dû l'adopter,
fit Max.
Mais qui est l'homme et qui est la femme dans leur couple?
Ils sont peut-être asexués,
avança Patrick.
C'est ça, et leurs gosses naissent dans des choux.
Ça se pourrait, compte tenu de leur maîtrise de la biologie, intervint Richard.
J'ai souvent interrogé le docteur Bleu à ce sujet,
dit Nicole. Elle, car elle se donne pour féminine, prétend que c'est très compliqué, en partie à cause de leur polymorphisme, et elle affirme qu'elle me fournira des explications sitôt que j'aurai assimilé le reste.
Si j'étais un octo, j'aimerais être un de ces gros machins baveux que Nicole a vus hier,
dit Max en souriant.
Passer sa vie à bouffer, quel rêve! J'ai connu en Arkansas un fermier qui vivait comme ça, sauf qu'il ne régurgitait rien. Il ne voulait même pas partager avec ses porcs. Il pesait dans les 300 kilos quand il est mort, à l'âge de 30 ans.
Se moquer des obèses devant une femme enceinte dénote un manque de tact impardonnable,
lança Éponine en feignant l'indignation.
Oh zut, tout ça s'est dépassé. Nous sommes des animaux condamnés à passer le restant de nos jours dans une cage du zoo de la cité d'Émeraude. Les humains ne se soucient de leur ligne que s'ils peuvent la comparer à... »
Nai les pria de l'excuser.
« Je dois aller préparer les leçons d'aujourd'hui. Nikki va commencer à apprendre à lire à présent qu'elle connaît l'alphabet. »
« Telle mère, telle fille !» dit Max.
Patrick les laissa à son tour. Il ne restait que les deux couples et Ali dans la salle à manger. Max se pencha avec un sourire malicieux.
« Est-ce que j'ai la berlue ou est-il exact qu'il passe de plus en plus de temps en compagnie de Nai ?»«
Tu as raison, » dit Ali. « Je l'ai également remarqué. Il l'aide à s'occuper de Benji et des enfants. »«
T'es à côté de la plaque, ma grande. Je me demandais si un nouveau couple n'était pas en train de se former. »«
Patrick et Nai ?»
demanda Richard. Comme si cette idée ne lui avait jamais traversé l'esprit.
« Oui, mon chéri, » dit Nicole en riant. « Mon époux fait partie de ces génies qui manquent d'esprit d'observation. Rien ne lui échappe en ce qui concerne ses projets, mais il ne voit pas son entourage. Je me rappelle quand nous étions au Nouvel Éden et que Cathy a commencé à porter des jupes très courtes. »
Elle s'interrompit. Elle ne pouvait parler de sa fille sans sentir sa gorge se serrer.
« Les jumeaux en sont conscients, »
fit Éponine.
« Nai m'a déclaré que Galilée était jaloux. »
« Et que dit-elle des attentions de Patrick ?»«
Vous la connaissez. Elle doit craindre que ses enfants n'en soient malheureux. »
Tous se tournèrent vers le visiteur qui venait d'apparaître sur le seuil.
« Tiens, tiens, bonjour Hercule !»
lança Max en se levant.
« Quelle surprise ! Que pouvons-nous faire pour vous ce matin ?»
L'octopode entra dans la pièce, la tête enrubannée de couleurs.
« Il dit qu'il est venu aider Richard à mettre au point son interprète électronique, »
expliqua Ali.
« Plus particulièrement, ce qui se rapporte aux bandes du spectre que nous ne pouvons voir. »